France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en veux aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Le voyage est depuis toujours une source d'inspiration sans limite pour de nombreux compositeurs. Béla Bartók et Zoltán Kodály peuvent à ce titre être considérés comme des pionniers de l'ethnologie musicale. Dès le début du XXe siècle, ils se déplacent en Roumanie, de village en village. Ils capturent les sons environnants, collectent plusieurs milliers de mélodies populaires. Et bien, notre invité se sert lui aussi de ses voyages comme des récits musicaux. Chacun de ses disques offre un passeport pour l'évasion, évasion géographique, mais aussi au cœur de l'histoire. Histoire de la musique. Bonjour Tilassine.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Musique, musicien électro, DJ, compositeur. Vous nous faites certainement beaucoup d'auditrices, d'auditeurs découvrir ce compositeur russe, Alexander Cheremetiev, ici avec ce titre Nine Sili Nebesneye, si je prononce bien. Vous avez un bon niveau de russe.
Vous m'avez
un petit peu soufflé la prononciation ici, interprétée donc par la Chorovaya Academia. Racontez-nous pourquoi avoir choisi ce compositeur-là, cette œuvre-là pour démarrer l'émission.
Alors un compositeur russe déjà, parce que moi mon premier projet c'était dans le Transsibérien, donc j'ai vraiment un coup de cœur avec la culture, la musique russe, ça m'est resté depuis. Et puis c'est un compositeur que j'ai découvert assez récemment quand je travaillais justement sur mon dernier album Timeless, où je retravaille des compositeurs de musique classique, et ça a été un peu une claque, surtout ce morceau qui monte comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ça.
Et puis il y a ses voix aussi.
Non mais c'est magnifique, en fait c'est extrêmement puissant, très profond, en même temps très doux. J'ai adoré quoi.
Et comment l'avez-vous découvert ?
Eh ben, en fait, en discutant beaucoup avec le label Sony Masterworks, avec qui je travaille sur cet album, en fait, ça vient d'eux un peu ce projet. Ils m'ont mis au challenge sur l'idée de réinterpréter comme ça des morceaux de musique classique. Et puis, on discutait. Moi, j'avais évidemment plein de compositeurs en tête, mais l'idée c'était aussi d'aller chercher un petit peu plus loin, de pas faire que des compositeurs connus. Et sur des ping-pong d'échanges, à un moment donné, ce morceau est sorti. Et puis, c'était un peu une révélation pour moi.
Alexandre Cheremetiev, revisité par notre invité Tilassine ici, on l'entendait, hein, cette manière de se réapproprier en quelque sorte un matériau et de faire une nouvelle proposition avec cela, avoir l'ensemble finalement des éléments à portée de main. On pourrait dire que le DJ compositeur est une sorte de chef d'orchestre, Tilassine.
Oui, un petit peu. En fait, moi, je l'ai vécu un petit peu comme mes voyages. C'est-à-dire que moi, d'habitude, j'ai l'habitude de voyager un petit peu partout, d'enregistrer, de rencontrer des gens et de composer avec cette matière. Et là, ça a été beaucoup fait pendant le confinement, en fait, hein, cet album. Et donc, le voyage géographique était un petit peu bloqué, compliqué. Et du coup, je me suis projeté un peu dans le temps et je l'ai vraiment vécu comme ça, comme des espèces de rencontres avec chaque compositeur. L'idée, c'était pas de me confronter à des chefs-d'œuvre comme ça, mais juste de voir ce qui allait se passer si je mélangeais, par exemple, ces chœurs-là. Du coup, j'ai composé tout le piano au-dessus et toute l'orchestration. Et puis, il y a des fois, c'était plus samplé, c'est-à-dire j'allais chercher vraiment juste des petites parties qui m'intéressaient, je recomposais vraiment des nouveaux morceaux avec ça. Voilà, l'idée c'est de faire des rencontres en fait, de mélanger un petit peu les genres et puis de donner une nouvelle lecture à des morceaux quoi.
Eh bien, je vous propose de nous balader à travers votre album Timeless, paru donc en 2020, avec tout d'abord ici Debussy et son Clair de Lune. Vous avez aussi revisité Le Requiem de Verdi avec cet extrait Dies Irae. Ça marche terriblement bien hein, avec ce Requiem.
C'est un autre registre. Mais en fait, ce qui était intéressant avec cet album, c'était qu'en fait, chaque morceau m'emmenait dans une direction qui n'avait rien à voir. Voilà, entre Cheremetiev, qui est un peu de l'ordre de la musique de film, Verdi, bah voilà, Verdi, c'est plus de 130 BPM, c'est très rapide, c'est très violent, c'est du hard rock pour l'époque, en fait, quoi. Donc moi, forcément, ça m'a emmené sur un truc très techno, très puissant comme ça, très progressif. Et voilà, c'était la meilleure partie, je trouve, de cet album, c'est que chaque compositeur, chaque harmonie, chaque rythmique, chaque tempo m'emmenait dans des directions totalement différentes. Donc ça fait, voilà, c'est ce qui était pour moi vraiment très intéressant en tant que compositeur.
Et comment les avez-vous sélectionnés, justement, ces pièces que vous avez retravaillées?
Ben, l'idée de base et le nom de l'album Timeless, c'était voilà de travailler sur ce que j'appelle moi des mélodies intemporelles, celles qu'on connaît un petit peu toutes, qu'on a en tête, enfin, en tout cas moi qui m'ont marqué. Et souvent, voilà, il y a que quelques notes qu'on a en tête, et l'idée c'était de choper ces choses-là et de les emmener un petit peu ailleurs. Donc ça va de coups de cœur que j'ai depuis l'enfance, de morceaux qui font partie de moi un peu, à aussi des découvertes. L'idée c'était de...
C'était vos parents qui écoutaient ça quand vous étiez petit?
Pas vraiment, non. non, mais j'ai eu une éducation musicale classique. Donc voilà, je suis passé par la musique classique, même si ça n'a pas forcément été un coup de cœur au début. Je l'ai redécouvert plus tardivement en tant que compositeur, en fait, je pense.
La gynopédie numéro 1 d'Eric Satie, revisité par vous, qui la signe ici, toujours sur ce disque Timeless, qui rend hommage à ces fantastiques compositeurs de l'histoire de la musique, une manière de montrer l'immense diversité, variété de ce répertoire. Vous avez, vous, un jour joué d'un instrument, peut-être du piano ou autre d'ailleurs?
Je joue toujours, moi j'ai commencé au saxophone en fait. J'ai commencé à 6 ans au saxophone, c'est un instrument que je garde avec moi, que je joue toujours en concert. J'ai fait de l'orchestre aussi un petit peu, je suis passé un petit peu par le conservatoire.
Bah, quel souvenir en gardez-vous?
Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus appris à jouer des partitions qu'à composer, honnêtement. Donc quand je suis passé compositeur en musique électronique, j'ai un peu l'impression d'avoir tout redécouvert d'un coup, de devoir un peu recommencer à zéro, mais c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça m'a donné plein de bases, plein d'acquis en harmonique, en rythmique et tout, qui m'aident beaucoup aujourd'hui, et ça fait que dans ma façon de faire de la musique électronique, moi je l'appelle musique électronique juste, c'est le format pour moi, c'est un mélange de plein de genres, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a des musiques de plein de pays différents, j'essaie de faire quelque chose juste qui me plaît comme ça. Mais voilà, le fait d'avoir un bagage de musique classique, c'est forcément resté avec moi et ça ressort dans des morceaux.
Et puis j'imagine que votre approche des instruments dans votre écriture est enrichie.
Oui, bien sûr. Bah du coup, c'est une approche. Enfin, et ma manière de composer est une approche plus instrumentale et assez écrite, quoi.
Il y a des ordinateurs, mais il y a aussi des instruments, des
vrais. Ouais, exactement. Et de plus en plus, en fait. Pour moi, l'ordinateur, c'est une facilité. C'est-à-dire que j'ai pas souvent un orchestre chez moi.
Et, bizarrement.
Voilà. Et encore moins quand j'étais étudiant dans ma petite chambre. Voilà. Donc, avec un ordinateur, un petit clavier, d'un coup, j'avais un orchestre sous les mains. Quoi.
Et
j'avais...
donc, le retour aux instrumentistes, les vrais, c'est une sorte de luxe que vous pouvez exactement. Vous offrir aujourd'hui.
Ouais, c'est un petit peu ça. Mais en même temps, j'aime bien le fait de pouvoir tout faire moi-même et tout. Donc, Donc au final, je travaille assez peu avec des musiciens. Je préfère apprendre moi-même, même si c'est un petit peu, si c'est moins parfait, mais le faire moi-même, pouvoir voilà passer une nuit à tester des choses et tout quoi. L'expérimentation, c'est quelque chose qui est plus compliqué à faire avec un orchestre. Donc j'aime bien ce que cela permet en fait.
Vous avez choisi de nous faire entendre un pianiste bien vivant, hein, Lucas Debargue ici, ouais, dans un extrait de son dernier disque baptisé Jal. Voici l'une des miniatures polonaises de Miloš Magin. Nostalgie du pays, extrait des miniatures polonaises de Miloš Magin, compositeur que nous fait redécouvrir Lucas Debargue, le pianiste, sur son dernier disque. Votre choix musical, Tilassine, Lucas Debargue, pourquoi lui ?
Eh ben, parce qu'il s'avère que ce titre, c'est moi qui ai réalisé avec mon ami Cécile Chabert, on a réalisé le clip en fait, on a la vidéo qui accompagne ce morceau. Donc ça a été une très belle rencontre avec Lucas, et voilà, j'ai eu en plus un coup de cœur sur ce morceau, donc ça a été un gros plaisir de pouvoir travailler de l'image dessus, quoi.
Nostalgie du pays, on y revient un peu, bah les ouais, paysages qui déchirent.
Ah mais totalement, moi ça m'allait parfaitement, quoi.
France Musique, Saskia Deville.
Tilassine, vous avez été formée au conservatoire, mais aussi aux beaux-arts. Et c'est vrai que les images de vos clips sont extrêmement travaillées. On a des images très esthétiques, très épurées. Comment est-ce que vous construisez cela? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont vos sources d'inspiration?
Bah, ça peut être plein de choses, hein. Notamment là sur l'album, on a réalisé un gros clip sur Cheri Metiev qu'on a déjà entendu.
L'album Timeless.
Voilà.
Et là aussi, dans ce clip, je vais peut-être plonger nos auditeurs dans ce qu'ils peuvent voir en allant visionner le clip sur Internet. Mais ce sont des musiciens, des instruments plongés, immergés et qui
remontent à la surface.
Qui remontent à la surface.
Ouais. Et ça, c'est un peu un clin d'œil au travail de Bill Viola, l'artiste. Et donc voilà, on avait envie de faire quelque chose d'assez fort. Donc évidemment, on a fait les moyens. Il y a un piano et tout un orchestre qu'on a jeté dans une piscine avec 15 mètres de fond et on tournait, voilà, sous l'eau. C'était une allusion au fait de retravailler ces morceaux qui peuvent être anciens et qu'on fait revenir un petit peu à la surface, non pas que j'estime les remettre à la lumière au goût du jour, mais en tout cas que voilà, de retravailler quelque chose d'un petit peu ancien. C'était aussi un peu une sorte de clin d'œil pour nous aux musiciens du Titanic. Moi, c'est une image qui m'a toujours marqué, en fait, qui continue de jouer tout en coulant. Donc l'idée, c'était voilà, de faire remonter un petit peu ça à la surface. C'est aussi une période assez particulière pour la musique, et notamment la musique vivante. Donc voilà, à la fois ces corps figés qui reviennent un peu à la vie et qui remontent, parce que du coup tout était évidemment filmé en reverse, quoi, qui reviennent à la surface. C'était pour nous un geste assez fort, quoi.
Et justement, quel retour, moi je suis curieuse, avez-vous reçu de la part de votre entourage, peut-être de musiciens classiques aussi que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, quant au fait de justement vous réapproprier en quelque sorte ces chefs-d'œuvre du répertoire classique?
Ben, j'ai pas eu trop d'insultes, ça va.
Jusqu'ici.
Non, mais au départ, quand j'en parlais, il y en a qui se disaient « Non, mais tu peux pas faire ça et tout. » Et j'avoue que moi, je me posais pas trop la question. En plus, j'étais coincé pendant le confinement. Et puis, le fait qu'à la base, ça vienne d'un challenge un peu d'un label de musique classique chez Sony Masterworks, pour moi, ça... Comment dire, ça validait un petit peu le truc, quoi. Je me serais pas permis de le faire tout seul dans mon coin.
C'est vrai?
Non, je pense pas, parce que...
Elle reste impressionnante, cette grande musique, cette musique sérieuse.
Ouais, un petit peu, mais en même temps, moi, ça m'a pas du tout gêné. Justement, je me suis pas du tout posé ces questions-là. J'ai vraiment éjecté le côté chef-d'œuvre et tout. Moi, je me suis vraiment amusé, en fait, avec, sans me poser de questions. Et je pense que ça aurait pas marché sinon, quoi. Il faut pas y aller si on se pose trop de questions. Ah non, mais là, faut peut-être pas que je fasse ça. Non.
Il faut se sentir libre.
Ouais. Moi, le but, c'était d'un jeu. C'était vraiment une curiosité de voir qu'est-ce qui allait se passer quand on mélange ça avec ça, quand on joue un petit peu avec ces choses. Je pense que la musique, voilà, elle est un petit peu, elle est à tout le monde. Le but, c'est de faire des croisements, de faire des choses comme ça. Donc, et puis, je me sens assez proche de la musique classique dans un sens. Je me sens plus proche de compositeurs de musique classique que d'un groupe de rock, par exemple, dans la façon de créer, dans tout ça. Donc, ça m'allait bien de travailler comme ça.
Eh bien, voici une œuvre que vous n'avez pas encore, à ma connaissance, retravaillée. Une œuvre absolument splendide. C'est L'île des morts de Sergueï Rachmaninov que vous avez choisi de nous faire entendre. Poème symphonique inspiré par une image, par un tableau.
Exactement. Et c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. Parce que j'aime beaucoup, enfin, moi, je travaille beaucoup, justement, à l'image, à interpréter soit des lieux, des paysages, des choses. Et là, moi, c'est un morceau qui m'a toujours marqué parce que le tableau m'a aussi toujours marqué. J'adore ce tableau.
Décrivez-le nous.
Ah, ouais, alors le décret, c'est du symbolisme, hein. C'est Arnold Böcklin, et c'est donc une île avec des gros pins qui montent et une roche et une barre qui arrive, ça s'appelle voilà, l'île des morts. Il y a plusieurs représentations avec des couleurs un petit peu différentes, des teintes de lumière différentes selon les représentations. Et voilà, je trouve que c'est un tableau enivrant, assez sombre. C'est une beauté un petit peu glaciale. Bon voilà, je trouve ça, on peut se perdre dans ce tableau, et je trouve la musique va tellement bien avec. J'adore ce lien musique et image, quoi.
Un voyage, ou plutôt le dernier voyage. Charon qui prend à bord de sa barque un défunt pour l'emmener au pays des morts de l'autre côté du Styx. Ce tableau du peintre suisse Arnold Böcklin qui a inspiré à Sergueï Rachmaninov L'île des morts que nous écoutons ici. Votre choix, Tilassine, une musique pleine de brouillard, de...
Très joyeuse. Hein,
très, très joyeuse. Très, là, ouh.
C'est la fête au studio.
Le bonheur terrestre.
Voilà.
Hein.
tout ce que j'aime.
C'est vrai, c'est ça qui vous touche aussi dans la musique classique, cette musique plutôt inquiétante, nostalgique.
Ouais, non, mais j'avoue que moi, ça me touche particulièrement. Tout ce qui est assez nostalgique, très profond, ça, je trouve que ça, c'est là où ça prend un petit peu les tripes et tout. Et
puis là, on imagine bien aussi, l'écoute ici, l'approche silencieuse du bateau. C'est une musique assez descriptive aussi.
Bah, très, en fait. Et c'est pour ça qu'avec le tableau, pour moi, c'est presque la musique de film, en fait, pour un tableau, quoi. C'est assez particulier.
Ici, on écoutait Gian Andrea Noseda et l'Orchestre Philharmonique de la BBC. Ça vous a déjà travaillé de justement collaborer avec un orchestre symphonique, Tilassine ? C'est un rêve, peut-être ?
Oui, c'est un rêve. J'espère que ça pourra se faire, notamment avec cet album et tout. On est en train de réfléchir à ça. Voilà, je pense qu'il faut faire ça bien. C'est un rêve, mais
comment fait-on bien les choses?
Il y a un gros travail d'arrangement, en fait. On travaille avec un chef d'orchestre et tout. Voilà, il faut... De la même façon que moi, je retravaille mes morceaux totalement pour le live. Moi, quand je compose pour écouter chez soi, un petit peu partout, en voyage ou autre, mais pas forcément pour une grosse salle avec 3000 personnes. Donc, il faut réadapter vraiment ces morceaux. Je réarrange totalement. Là, encore une fois, quand ça va être joué avec un orchestre, il faut revoir un petit peu tout, la structure, les arrangements, un petit peu tout, quoi. Donc, c'est pas mal de boulot.
Eh bien, en attendant de vous retrouver, à la Philharmonie de Berlin, à la Philharmonie tout court ou ailleurs, on peut venir vous écouter en concert. Alors, le concert du 17 novembre, salle Playet est complet. Il y a d'autres dates. Eh bien, ce sera notamment à Montpellier le 25 novembre, le 26 novembre à l'Espace Julien à Marseille, le 27 au Transborder à Villeurbanne, Lille le 10 décembre et puis le 16 mars, eh bien, séance de rattrapage pour les Parisiens. Ce sera à l'Olympia. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie de découvrir l'univers de Tilassine, eh bien, rendez-vous sur la page de l'émission sur francemusique.fr. Vous trouverez tous les liens, toutes les dates, tout l'agenda pour aller découvrir cet artiste. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci.
Et puis merci à l'équipe Éric Lancien, Pauline Boisaubert et Valérie Lavalard. On va se quitter avec votre dernier choix musical. Tiens, Philippe Glass pour un musicien électro. Comme c'est original, Tilassine.
Et c'est le seul morceau que j'ai joué au piano. C'est un peu ma lettre Elisa.
C'est vrai. Le matin, au réveil, à quel moment de la journée?
J'ai pas de piano chez moi, donc c'est plutôt au concert
en
ce moment.
Dans les gares.
Pendant les balances. Et dans les gares, voilà. Exactement.
Opening joué ici par Víkingur Ólafsson. Très belle journée à toutes et à tous sur France Musique.
Thank you.
À réécouter sur francemusique.fr.